Chapitre 2. Clémentia, comme cela devait arriver, se fit aimer de tous, et bientôt chacun rivalisa de soins et de prévenances pour rendre sa vie aussi douce que possible. « Caramba !» disait souvent Don Martin. « Cet écervelé de Fernand savait bien ce qu'il faisait en épousant cette petite perle. » Car dans son amour pour les surnoms, il appelait ainsi sa belle-fille. « Elle est, ajoutait-il, un astre pour les yeux, un rossignol pour l'oreille, un trésor pour la maison. Je me suis tellement habitué à sa présence que mon plus grand chagrin sera de la voir partir, ce qui ne peut manquer d'arriver, car pour une jeune et jolie veuve, il n'est d'autre avenir que le mariage, le cloître ou le tombeau. « Cet avenir ne sera pas le mariage pour Clémence, disait l'abbé, qui savait combien elle avait été malheureuse dans sa première union, et ne pouvait admettre que cette âme d'élite pût abandonner la haute sphère où le malheur l'avait placée. Dona Brigida avait la même opinion, pensant que le souvenir de son fils devait suffire à remplir l'existence de sa belle-fille. Convaincue qu'il n'y avait sur terre aucun mortel digne d'elle, Paul croyait aussi que Clémentia ne se remarierait jamais. On avait préparé pour Clémentia un petit appartement donnant sur une cour fermée. Quelques chaises de paille ordinaire, un lit de mauvais goût garni de fort beau linge, une toilette recouverte en mousseline empesée, un vieux bureau commode, des tableaux de diverses grandeurs représentant des saints et une natte en guise de tapis, le tout extrêmement propre, tel était le modeste mobilier de cette tranquille demeure. Mais un an après, on ne l'aurait pas reconnu. Les chaises avaient été remplacées par de jolis fauteuils dont le bois noir et or imitait la laque et dont le siège était tressé un jour. Les tableaux, restaurés à Séville et entourés de cadres dorés, avaient repris leur premier éclat. Au-dessus d'une élégante toilette, d'une console et d'encoignures placées aux quatre coins de la chambre, le tout en bois d'acajou, on voyait de jolis vases, en cristal et en porcelaine de Chine, garnis de fleurs naturelles. Une jolie bibliothèque, avec de petits rideaux en taffetas cramoisi, renfermait un choix des plus beaux ouvrages des écrivains espagnols, anciens et modernes. Près de la fenêtre, et à côté d'un petit fauteuil pliant, dont le siège et le dossier brodés en tapisserie étaient l'œuvre de Clémentia, on voyait une gracieuse corbeille à ouvrages, et sur le bureau, devenu par une restauration intelligente un meuble magnifique dans le style de boule, aux incrustations de cuivre, d'écailles et de nacre, on admirait un beau Christ en ivoire, attribué au célèbre sculpteur espagnol Montañez. On avait ouvert une porte sur la petite cour, métamorphosée en jardin. Les murs disparaissaient sous des touffes de plantes grimpantes, le sol était tapissé de violettes et un beau grenadier, chargé d'une floraison magnifique, étalait au milieu son luisant feuillage, pendant que des oiseaux, aux chants et aux plumages divers, enfermés dans des cages artistiquement cachées parmi les feuilles, mêlaient leur suave concert au délicieux ramage du rossignol. Là, dans son admiration naïve, Clémentia venait quelquefois respirer l'air embaumé du soir, élevant un regard humide de reconnaissance vers le Créateur, vers ce Dieu qui a donné à l'homme une âme capable de l'aimer, sans lui demander, en échange de tant de bienfaits, autre chose que de faire un bon usage de ses dons. Elle était bien loin alors de penser à toutes les douleurs qu'elle avait éprouvées. Car le passé n'est presque toujours pour nous qu'un souvenir amer. S'il nous rappelle des jours heureux, c'est pour nous les faire regretter. S'il nous retrace des peines et des chagrins, c'est pour nous les faire ressentir de nouveau. Pour Clémentia, la dette envers le passé était acquittée. Son âme, ses sentiments, étaient sortis purs des épreuves auxquelles elle avait été soumise. Cette égalité de caractère qui la portait à bien se trouver partout, cette gaieté naturelle et naïve qui distinguait Clémentia, venait chez elle de l'absence de toute prétention, avantage précieux d'une éducation chrétienne. Aussi, à peine Clémentia, déjà aimée, gâtée même par tous, se vit-elle installée dans sa nouvelle demeure, qu'elle ne désira plus rien et se crut si heureuse qu'un jour, dans un de ses élans spontanés, si naturels à son âme expansive, elle se jeta au cou de sa belle-mère en s'écriant « Oh, ma mère, que je suis heureuse !» Madame de Guevard, qui tricotait selon son habitude, leva la tête, regarda Clémentia d'un air surpris et lui répondit « Tant mieux, ma fille !» Mais la mère et fugitif sourire qui effleura ses lèvres était une réminiscence des froides paroles par lesquelles elle avait accueilli la naïve douleur de Clémentia le jour de son arrivée. Chacun dans ce monde juge d'après ses propres sentiments. Les personnes calmes apprécient la douleur suivant sa durée. Les personnes passionnées suivant sa véhémence. Toutes choses pourtant qui tiennent bien plutôt au tempérament qu'à l'âme. Aussi voit-on des personnes d'une constitution faible languir et mourir même à la suite d'une peine légère, tandis que d'autres, plus fortement constituées, supportent sans pâlir des douleurs bien plus fortes. Il y aurait donc une grande injustice à conclure de la froide réception de Dona Brigitta envers sa belle-fille, qu'elle n'aimait pas son fils, ou à supposer, en voyant sa jeune veuve renaître à la vie, qu'elle ne regrettait pas son mari. Don Martin, qui gâtait à plaisir sa belle-fille, lui demandait souvent « Que désires-tu, ma petite perle ?»« Rien, lui répondait Clémentia, avec un sourire où se peignait son cœur. Rien, si ce n'est la durée de mon bonheur. » Modération bien rare dans la jeunesse, surtout lorsqu'elle est heureuse et qu'elle voit s'accomplir l'objet de ses désirs. La vieillesse seule peut se dire qu'elle a acquitté en entier le tribut de larmes que tous doivent à la vie. C'est là une de ses plus belles prérogatives. Les métamorphoses opérées dans les appartements de Clémentia étaient l'œuvre de l'abbé, qui, avec son tact exquis et sa tendre affection pour sa nièce, avait voulu embellir son séjour pour le lui rendre plus agréable. Chaque changement avait été pour Clémentia l'occasion d'une surprise et d'une joie naïve et presque enfantine. Quant aux cadeaux que lui faisait son beau-père, c'était toujours de belles et prosaïques quadruples d'or que Clémentia voulut refuser au commencement, mais qu'elle fut forcée d'accepter à la fin sur les instances de Don Martin, que ses refus faillirent fâcher tout de Martine. Clémentia, cédant alors, accepta les pièces d'or qu'elle jetait successivement dans un tiroir sans les compter. Sa belle-mère ne lui faisait de cadeaux qu'une fois l'an, le jour de sa fête. Il consistait toujours en des bijoux de grand prix. Paul lui donnait tous les jours un bouquet, non qu'il appréciât les fleurs, ni qu'il les considérât comme une élégante parure ou comme l'expression d'une poétique galanterie, mais seulement parce qu'il savait que Clémentia les aimait. Clémentia, également affectueuse et tendre envers tous les membres de la famille, s'attacha néanmoins plus spécialement à son oncle l'abbé. Leurs âmes se comprenaient, leurs cœurs battaient à l'unisson, et l'abbé reconnut bientôt que le même accord pourrait exister entre leurs intelligences. Aussi s'appliqua-t-il à cultiver ce jeune esprit si avide de s'instruire, et certes, personne n'était plus digne de remplir cette tâche que l'abbé. C'était le type de l'homme supérieur, planant dans cette sphère accessible seulement aux âmes d'élite, qui joignent à une haute vertu, une grande science et une profonde connaissance du monde. L'illustre maître ne suivit aucune de ces règles qui rendent souvent l'étude exclusive et aride. L'enseignement des langues fut le seul qu'il soumit à une règle fixe. Pour tout le reste, il expliquait et analysait les choses à mesure qu'elles se présentaient, son but étant d'inculquer à son élève l'esprit et non la lettre des sciences. « Tu ne dois pas chercher, lui disait-il, à devenir savante. Il te faut seulement avoir une idée juste de chaque chose, sans en approfondir aucune, te former en un mot comme un bouquet des fleurs de l'arbre de la science. » Pour une femme, certaines connaissances ne peuvent être qu'un simple vernis d'éducation, un délassement plus agréable qu'utile. Ne t'enorgueillis jamais des talents que tu auras pu acquérir. Le savoir est à la portée de tous, il cesse même d'être un avantage lorsqu'il se joint à la présomption qui rend à la fois odieuse et ridicule. Car ce qu'on a dit du courage, on peut le dire du savoir. On trouvera toujours un plus savant que soi. L'instruction, qui s'étale, blesse profondément l'amour-propre d'autrui, et le monde ne pardonne jamais la supériorité qui cherche à s'imposer. Elle est quelquefois une charge, et la grande sagesse de la femme est d'en jouir en la cachant sans affectation. Qu'il en soit ainsi de ton savoir, qu'il devienne pour toi comme une tunique d'hermine dont tu sentiras seule la finesse et la douceur. Avoue toujours tes fautes, car je suppose, ma fille, qu'elles peuvent s'avouer sans honte. Mais cache ton mérite, car les hommes sont souvent enclins à l'indulgence pour ce qui est mal, rarement à la justice pour ce qui est bien. Ne méprise personne. Le mépris, fils aîné de l'orgueil, ne doit jamais profaner la noblesse de ton âme, la modestie de ton sexe, la délicatesse de ton cœur, l'équité de ta conscience. Le mépris est un crime de lèse-humanité. Souviens-toi surtout que si le savoir est quelque chose, si le génie est beaucoup, la vertu est bien plus encore. C'est la seule supériorité qui ne fasse pas de jaloux. Aime la lecture, mais sans passion. Regarde les bons livres comme d'agréables amis, pleins d'enseignements, ne demandant rien et donnant beaucoup. Amis que l'on peut oublier dans la prospérité, que l'on retrouve toujours dans le malheur, prêts à nous distraire, à nous diriger, à nous consoler. Quand même tu oublierais ce que tu as lu, ne crois pas avoir perdu le fruit d'une bonne lecture, car il te restera toujours le souvenir de l'impression qu'elle aura faite sur toi, du cours qu'elle aura donné à tes idées. L'important, ce n'est pas de lire beaucoup, mais de retenir et de s'approprier ce qui est bien. Lis de préférence l'histoire et les voyages. La première t'apprendra à juger les hommes, les seconds à connaître les choses. Ne t'occupe jamais de ces systèmes insensés qui, tous, promettent un bonheur qu'il est interdit à l'homme de goûter après sa chute. Un philosophe allemand a dit « Si les hommes étaient plus heureux, ils ne résisteraient pas à l'ennui. S'ils étaient plus malheureux, ils succomberaient au désespoir. » Soumettons-nous donc à cette grande loi de l'équilibre que Dieu lui-même a établie et contre laquelle viendront se briser tous les efforts humains. Que ton âme pure redoute et fuit ces idées de sensualisme et honté qui prônent impudemment le culte des intérêts matériels. Élève tes regards au-dessus de ce monde dégradé. Dieu, en nous attirant vers le bien, nous élève, en nous appelant vers le mal, l'ennemi de nos âmes cherche à nous abaisser. Ne donne pas légèrement ton amitié, mais crains de te faire des ennemis, et pour cela que tes actions, toujours irréprochables vis-à-vis de toi-même, comme vis-à-vis des autres, ne donnent jamais prise à la malveillance. Il vaut mieux l'éviter qu'avoir à la combattre. Il ne suffit pas d'avoir la conscience que ce que l'on fait est bien, il faut non seulement être bon, mais encore paraître bon aux yeux du monde. On doit avoir une juste déférence envers l'opinion publique, mais elle ne doit pas aller jusqu'à cette basse vanité qui s'en va mendiant partout des éloges. Cependant, ma fille, tout est préférable chez la femme à cet orgueil insolent qui, par une sotte affectation d'indépendance, semble mépriser les jugements du monde. Madame de Staël a dit « L'homme peut braver l'opinion, la femme doit s'y soumettre. » Et encore, l'homme ne doit la braver que dans des cas exceptionnels et lorsque sa conscience lui en fait un devoir. Je n'ai pas besoin de te recommander de mettre toujours la plus grande délicatesse dans tes actions. Cette qualité est instinctive chez les natures privilégiées comme la tienne, et je l'ai admirée souvent chez de simples habitants des campagnes qui en ignorent même le nom. Nos rapports avec le monde exigent beaucoup de tact. Il faut savoir se mettre à la place de ceux qui nous entourent. De même qu'en lisant, nos yeux regardent d'avance la phrase que nos lèvres vont prononcer, de même, en parlant, nous devons épier sur le visage de ceux qui nous entourent l'effet de nos paroles et les modifier au besoin afin de ne blesser personne. Méfie-toi surtout de cet axiome vulgaire qui dit « Pense mal et tu devineras juste ». Non, pense bien, juge bien et tu ne te tromperas pas. Mais ne juge pas légèrement, forme lentement ton opinion, car on a dit avec raison « L'homme juge avec la tête et la femme avec le cœur. » Or, tu sais combien celui-ci est facile à se laisser tromper quand il est noble et sincère. Préfère toujours la tristesse d'une déception au repentir d'un mauvais jugement. J'ai lu quelque part que l'homme d'esprit était celui qui savait discerner les types différents qu'offre la nature, l'homme vulgaire, celui pour lequel tous les caractères semblent jetés dans le même moule. « Je croyais, interrompit Clémentia, que les types étaient rares. » « Non, ma fille, dit l'abbé, car toute personne qui résume en elle d'une manière nette et accentuée les traits distinctifs de la classe à laquelle elle appartient est un type. » « Vois, mon frère, c'est le type vrai du gentilhomme andalou. esprit vif mais inculte, caractère franc mais indomptable, tête ardente et cœur généreux, il réunit aux qualités et aux vertus du chrétien les goûts simples et les attitudes mesquines du campagnard. Observe Paul. Il est modeste, peu brillant, mais sa valeur personnelle n'en est pas moins incontestable. Ma belle-sœur t'offre encore un type, celui de la femme austère dont la froide sévérité, comme un manteau de glace, recouvre et étouffe dans leurs germes les élans d'un cœur riche et généreux. Vois encore la tante Latrane qui assaillit si souvent mon frère de ses importunes demandes. Voilà le type de la mendiante espagnole, exigeante, despotique et surtout effrontée. Ces types ne sont pas rares et peuvent se rencontrer souvent, mais celui de la jeune fille qui, élevée dans le silence et la retraite d'un couvent, a su se plier aux exigences d'une vie austère sans regretter le monde qu'elle a traversé, en conservant l'exquise pureté de son cœur, se trouve plus difficilement, et ce type est le tien, ma fille. Ne cherche jamais, Clémentia, à acquérir une grande science, ne désire pas d'arriver à la célébrité aux dépens de la simplicité de ton âme. Souviens-toi que le savoir sans la vertu est une statue sans vie. Un philosophe a dit qu'une bonne action efface l'ignorance. J'ajoute qu'elle seule vaut mieux que toute la science de l'homme. Ah, monsieur, que vous êtes bon ! S'écriait quelquefois Clémentia. Nous sommes tous bons en théorie, à quelques exceptions près, répondait l'abbé en souriant. Il n'y a aucun mérite à formuler de bonnes maximes, l'essentiel est de savoir les appliquer à propos. Suis mes conseils, mets en pratique mes leçons, et tout le mérite sera de ton côté. C'est par ces conversations et par des lectures choisies que l'abbé formait le goût et cultivait l'esprit, les idées de Clémentia, en développant dans son cœur le germe des sentiments les plus nobles et les plus délicats. Paul, bien qu'étonné du goût de Clémentia pour les livres et de son empressement à suivre les leçons de son oncle, voulut les écouter aussi. Bientôt il s'y intéressa et il finit par s'y appliquer avec toute l'attention, toute la ténacité propres à son caractère sérieux. Donia Brigida ne blâmait ni n'approuvait, car bien qu'elle ne tînt aucun compte pour elle-même de l'avis des autres, elle ne cherchait jamais à leur imposer le sien, qualité aussi rare qu'inappréciable. Don Martin, au contraire, aimait à se mêler de tout. Aussi, malgré le respect profond qu'il avait pour son frère, emporté par son aversion pour l'étude, il disait souvent à l'oreille de Clémentia « Ma petite perle, dis à ton oncle que vertu passe science et n'oublie pas qu'une jolie femme n'a pas besoin d'être savante. » Lorsque l'abbé prolongeait ses séances, Don Martin disait en grommelant « L'étude, encore l'étude, mieux vaudrait moins de mousse et plus de chocolat. » Il disait à Paul « Toi aussi tu veux faire le savant, toi qui, au lieu d'être de la famille des Guevara, a l'air de venir de celle des Alonso, qui étaient 30 et tous inégaux. Laisse là les bouquins. La veste du campagnard et le bonnet de docteur n'ont jamais pu aller ensemble. Cordonnier, à tes souliers. » Puis, suivant son habitude, il se mettait à chantonner. Saint-Pierre étant chauve, demanda à Dieu des cheveux. Le Seigneur lui répondit : « Laisse là ces misères, Pierre. »